Bonjour et bienvenue sur Science Sport Endurance. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée. Salut Clément, comment tu vas?
Bah écoute Jérémy, ça va super bien et toi?
Bah écoute, ouais, tout va bien, les compétitions reprennent, donc la motivation est de plus en plus grande.
Ah, je suis d'accord avec toi, ça fait vraiment plaisir. Bon, pour parler du podcast, c'est qui notre invitée aujourd'hui? Je crois que tu la connais vu qu'elle fait de l'aviron.
Ouais, exact, elle fait de l'aviron, elle est en route pour Tokyo. Cette invitée, c'est Hélène Lefebvre.
On se retrouve tout de suite avec Hélène pour ce nouvel épisode. Salut Hélène, comment tu vas?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Super, bon alors on est là avec toi aujourd'hui pour parler un peu d'aviron, mais tout d'abord pour un peu apprendre à te connaître, comment t'as commencé le sport quand t'étais petite?
Alors moi, je viens du judo. Je suis une judokate à la base. J'avais commencé à l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. J'ai démarré un peu dans le judo, un peu comme ça, un peu par hasard. Je sais plus trop comment, j'étais un peu jeune à l'époque. Et j'ai toujours été une mordue de sport. J'ai fait du judo, j'ai fait de la gym, de la natation, du tennis, de l'équitation. J'ai touché un petit peu à tout, tout en restant, on va dire, mon activité principale, le judo, et après l'aviron.
D'accord, bah c'est vrai que le judo c'est un peu le sport auquel on est beaucoup à se retrouver quand on est petit ou nos parents ils nous mettent, c'est un peu la garderie des enfants.
Ouais, c'est ça exactement. Puis à cet âge-là, il y a une bonne ambiance, on fait beaucoup de jeux, c'est très voilà, il y a beaucoup de pédagogie. Enfin voilà, j'aimais bien. Puis j'ai toujours gardé un lien en plus, même 20 ans après, j'ai gardé un fort lien avec mes coachs de l'époque du judo, qui ont été aussi des très bons voilà, des très bons formateurs et qui m'ont voilà accompagné tout au long de ma carrière, on va dire, de judokate, mais un petit peu aussi sur celle d'aviron.
Et du coup, par rapport à l'aviron, comment t'es arrivé à faire de l'aviron?
J'ai commencé l'aviron en sixième, grâce à ma prof de PS, Anne Nautelet, qui était ma prof de PS, qui est vice-présidente de la fédération actuellement, et qui était à l'époque ma prof de PS en sixième, et qui m'avait repérée parce qu'à l'époque, je présentais disons, un potentiel physique intéressant. Elle m'a demandé si ça me tentait d'essayer l'aviron. Je me suis inscrite à l'association sportive, donc avec l'UNSS, avec plusieurs de mes copines. Et puis c'est comme ça que j'ai débarqué à l'Ankou, dans mon club actuel. Au début, c'est pareil, c'est dans le même état d'esprit. On y va un peu pour découvrir la discipline, un peu pour s'amuser avec les copains, pour l'ambiance. Et ensuite, je me suis inscrite au club et c'est là où les choses un peu plus sérieuses ont commencé, où j'ai commencé à faire des compétitions nationales avec le club. Et c'est là où je me suis vraiment pris d'engouement, voilà, pour ce sport.
Et du coup, tu réalisais des compétitions d'aviron et de judo en même temps?
Ouais, en parallèle, je faisais les deux disciplines. Après, le judo, c'était une à deux séances dans la semaine, donc c'était pas, en termes de quantité, ça m'empêchait pas de m'entraîner correctement en aviron. La seule contrainte que j'avais au judo à l'époque, c'est que les cours étaient, si mes souvenirs sont bons, étaient de 20h30 à 22h, par exemple. Et des fois, je me rappelle que j'enchaînais, par exemple, bateau le matin. Des fois, on avait muscu, parce que les cours étaient le mardi et jeudi, on enchaînait à muscu. Et après, je devais aller au judo. Donc ça, il y a des fois, ça faisait des grosses journées. Et puis, à un moment donné, quand l'aviron prend de plus en plus de place et que on vise un peu plus de haut niveau dans ces disciplines-là, forcément, à côté, on peut pas. C'est difficile d'enchaîner les deux disciplines. Donc à un moment, j'ai dû me résoudre à ne faire que de l'aviron. Mais aussi parce que j'avais un objectif aussi clair en judo, c'est que je voulais pas arrêter tant que j'avais pas la ceinture noire. Je savais que si j'arrêtais avant, je reviendrais pas plus tard en fait. Donc je m'étais dit j'arrêterai le judo tant que j'aurais pas cette ceinture noire. Et je l'ai eu à 20 ans, et à 20 ans, j'ai dit ok, c'est bon, maintenant je peux arrêter.
Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais déjà dans la recherche de performance et dans le haut niveau en aviron?
Oui, c'était le début en tout cas. C'était le début. Jusqu'à, on va dire, mes années de lycée, j'ai compris que j'avais plus de potentiel en tout cas à faire de résultats en avion qu'au judo. Et à partir de, ouais, jusqu'au lycée, j'ai compris que c'était sûr, ma voie allait tracer plus en avion, et qu'en tout cas, ma carrière de judokate allait s'arrêter rapidement. Mais j'étais pas encore dans la recherche du haut niveau, haut niveau. À 20 ans, je me cherchais encore, c'est-à-dire que je débutais, on va dire, le haut niveau. Et même dans ma tête, j'étais pas encore, je pense, encore athlète de niveau, dans le sens où je pense que j'étais pas encore assez rigoureuse. dans la façon de faire un peu tous les jours par rapport à maintenant, on va dire, que ce que je l'étais avant. Je pense que le niveau, c'est pas s'entraîner tous les jours. Pour moi, c'était aussi un état d'esprit que j'avais à l'époque, j'avais pas encore, que j'ai acquis au cours de ma carrière, mais que à ce moment-là, je l'avais pas encore. Mais c'est juste que le cumul des deux commençait à devenir un peu compliqué et je sentais que ouais, si je voulais me perfectionner en aviron, il fallait que je ne fasse que ça.
Pour résumer, pour toi, l'implication dans le haut niveau, ça a été quand tu t'es retrouvé à 100% dans ta pratique et à te donner à fond.
Ouais, il y a ça, il y a aussi le fait de comprendre aussi que athlète de niveau, bah c'est un tout en fait, parce que moi le judo m'a vraiment inculqué et enfin, même tous les sports hein, de manière générale m'ont inculqué l'esprit de la gagne, la compétition, mais ça m'a pas vraiment inculqué à ce moment-là la rigueur et que demande le haut niveau, donc la rigueur de tous les jours sur les entraînements, les détails également. On peut parler parce que c'est pas, comme je disais, c'est pas juste s'entraîner bien tous les jours, c'est aussi au niveau de la nutrition, c'est faire attention aux petits détails, c'est faire attention à sa récup, enfin toutes ces petites choses qui au début, bah on se dit bah oui je suis athlète de niveau, je m'entraîne 10 fois par semaine, ouais, mais il faut à côté aussi avoir un, pour moi c'est un état d'esprit que en tout cas moi je n'ai pas eu dès le début, qui est venu, on va dire, qui est venu après mes années 23, suite à, je pense, à un petit déclic d'un voyage à l'étranger, qui a vraiment changé ensuite la physionomie de ma carrière après.
C'est les fameux gains marginaux pour optimiser la perf. Et du coup, c'est quoi pour tous ceux qui te connaissent pas, c'est quoi ton palmarès dans l'aviron?
Je suis championne d'Europe 2018, médaillée de bronze au championnat d'Europe en 2020. Finaliste olympique à Rio, où on a terminé cinquième avec ma coéquipière Elodie Ravera, 13 fois championne de France, voilà pour les gros titres, si on peut dire.
Ouais, on peut dire qu'au niveau français, t'as quand même un sacré palmarès, en tout cas pour l'aviron français féminin. Et du coup, par rapport à toute cette carrière dans le sport, est-ce que t'as pu réaliser des études en parallèle de ta carrière de sportif de haut niveau?
Ouais, bien sûr, parce que en aviron, on nous fait clairement comprendre dès le début que c'est un sport amateur, on n'est pas professionnel, on n'est pas payé pour ça. Et donc, une fois que la carrière s'arrête, il faut absolument pouvoir rebondir et partir avec un bagage au moins universitaire et préparer son l'après-carrière. C'est quelque chose de fondamental et on laissera, et ça fait partie aussi des missions de la fédération, elle ne laisse partir aucun jeune, on va dire, dans le niveau sans qu'à côté, il ait un double projet. Donc ça, c'est hyper important. Moi, j'ai eu la chance, donc j'ai suivi un cursus normal jusqu'au lycée, parce qu'à l'époque, je pensais, moi, pas nécessaire en fait d'adapter ma scolarité à mes entraînements. J'ai adoré mes années lycée et de les vivre pleinement dans des lycées, enfin comme une étudiante lambda, une lycéenne lambda. Franchement, ça m'a, j'ai adoré. Ça a fait partie de mes superbes années d'études en lycée. Donc pour moi, j'ai pas adapté jusque-là. Et comme je disais, à partir de 18 ans, là, on intègre l'équipe moins de 23 ans, espoir, et on sent qu'on bascule dans vraiment de l'haut niveau où là, les quantités d'entraînement sont beaucoup plus élevées qu'en junior, ça demande beaucoup plus d'investissement. Si on veut obtenir des résultats, c'est sûr qu'à un moment, il faut aménager ses études. Donc, j'ai eu la chance d'intégrer le pôle INSEP à Vincennes, à côté de chez moi. Et dès le début, j'ai pu avoir des études totalement aménagées à ma pratique. Donc, j'avais cours. Au début, j'ai fait 2 années de STAPS où j'avais cours, je crois, entre 8h et 10h. Après, j'allais m'entraîner. Et ensuite, j'aurais attaqué les cours de 14 à 16. Et ensuite, on allait s'entraîner l'après-midi. Je dis pas que c'était des années faciles parce que quand on est jeune, déjà, on passe le cap où la quantité d'entraînement augmente, mais en plus, on a les contraintes de cours à côté, qui fait que je vous dis pas qu'à 14, sur le cours de 14-16 heures, on avait un peu envie de dormir, quoi. C'était la période un peu compliquée. Mais ça se fait. Et après, j'ai fait une licence en management à Paris-Dauphine, où là, c'était une super expérience également parce que j'avais cours toute la journée le mardi, et ensuite c'est des cours à distance. Donc là, ça me permettait pleinement de suivre une licence dans une très bonne université parisienne, tout en étant sportive de niveau, donc avec des profs et un aménagement vraiment tip top. Et je vous en remercie. Et par la suite, j'ai pu faire aussi un autre master avec en sciences du sport, si on peut dire, à l'INSEP. Pareil, également, c'est un moment de ma carrière où je souhaitais partir à l'étranger, m'entraîner à l'étranger, donc en Afrique du Sud. Et ce master-là à l'INSEP me permettait de le suivre à distance. Donc, alors que c'était un master en présentiel, ils l'ont adapté vraiment que pour moi, pour me le mettre à distance, alors qu'au début, c'était pas le cas. Et l'INSEP a été vraiment, sur ce point-là, a été vraiment formidable parce qu'ils ont su s'adapter à ma demande, à mes contraintes à moi qui voulais la moitié de l'année partir à l'étranger, plus de mes compétitions et mes stages au cours du reste de l'année. Et ils ont su vraiment voilà, s'adapter à moi. Et sans eux, j'aurais pas eu de master, clairement. Et après, là, ça date de y a maintenant 2 ans, l'année de la qualif pour les Jeux, donc 2019, je me suis lancé le défi un peu toute seule de passer le CAP en candidat libre. Donc là, c'est, je sais pas, c'était un défi vraiment purement personnel, où au début, je voulais le dire à personne. Et finalement, les dates d'examen tombaient en même temps de stage, donc j'ai dû finalement l'annoncer à mon staff technique, entraîneur. Pour moi, c'était un défi de le passer, un challenge où je l'ai fait là toute seule, là où j'ai pas eu, c'est moi qui ai pris des cours à distance, j'ai bossé chez moi, j'ai bossé toute seule, voilà, sans l'aide de personne, pour avoir ce CAP, et j'en suis super fière.
Et c'était un CAP en quoi exactement, du coup?
En pâtisserie.
Pâtisserie. D'accord. Ouais, donc tu as vraiment jonglé sur des années d'études carrément différentes, et c'est assez drôle. Et en même temps, je pense que tu étais un peu à la recherche de ce qui te plaisait en dehors de l'aviron, je me trompe peut-être.
Ouais, sur les études, je me suis dirigée vers STAPS parce que forcément, j'aimais les métiers du sport, en fait, et ne sachant pas vraiment quoi faire, je me suis dirigée vers une formation générale. Après la licence à Dauphine, j'ai beaucoup aimé parce que justement, je voulais sortir du cadre du sport et apprendre quelque chose sur le management des organisations, donc quelque chose vraiment qui sortait un peu de leur, enfin, en tout cas, de mon quotidien, du monde sportif. Après, je suis revenue dans un autre master dans le sport parce que pareil, j'aime ce domaine-là, et il me permettait également il s'adaptait aussi à mes contraintes, donc c'était vraiment le master idéal pour moi à ce moment-là. Et après, la pâtisserie, parce que c'est vrai que bah, j'aime bien faire des gâteaux. Ouais, c'était vraiment un défi. Je dis pas, bah, un CAP, voilà, c'est jamais facile à avoir, ça fait toujours un bagage à avoir avec soi. Et je me dis peut-être que je m'en servirai plus tard, parce que j'avais comme ça lors de mes voyages en Afrique du Sud, des fois je me dis, bah, pourquoi pas ouvrir une pâtisserie, une boutique, je sais pas, là-bas à l'étranger, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'en France, bah voilà, on est en termes de pâtisserie, on est vraiment au top niveau, mais à l'étranger, c'est quelque chose qui se fait pas du tout. Et j'avais eu dans l'idée, ça c'était il y a voilà, quelques années, j'avais eu dans l'idée, pourquoi pas, d'importer la pâtisserie française à l'étranger et d'y ouvrir, pourquoi pas, des boutiques. Voilà en fait pourquoi le fond de ma pensée, voilà pourquoi exactement la pâtisserie. Ça ne veut pas dire que je le ferai forcément, mais en tout cas, ça me laisse une possibilité maintenant de pouvoir le faire. Alors qu'avant, sans avoir un CAP ou aucune notion en pâtisserie, c'est compliqué de le faire.
Ouais, c'est clair que c'est un beau projet et ça te permet d'avoir plein de portes de sortie après ta carrière. Et justement, par rapport à ce master en sciences du sport, est-ce que tu as pu l'utiliser afin de le retranscrire dans tes entraînements, donc avec les connaissances que tu as pu acquérir?
Non, parce que, alors, même si dans ce master-là, on a en fait, ce master permettait, enfin, de former des futurs dirigeants d'associations, de clubs sportifs, d'institutions sportives. On voyait, il y a eu un panel très large où on voyait aussi bien de la formation de cadre que de la recherche, que du management. Donc, c'était hyper large. Les connaissances que j'aurais pu acquérir, qui auraient pu me servir sur ma carrière, auraient peut-être plus été dans la recherche, mais on n'en a pas fait beaucoup. Toutes les petites connaissances que j'ai acquises au fur et à mesure de ma carrière sont celles que je vais chercher dans les revues sportives, sur Internet, sur Instagram, sur les études qui sortent. Et c'est hyper intéressant. Et en plus de mon expérience à moi et de ce que j'ai vu aussi à l'étranger chez d'autres nations, c'est hyper intéressant. J'étais hyper curieuse au fur et à mesure de me demander qu'est-ce qui se fait de mieux, qu'est-ce qu'on fait ailleurs un petit peu. Et au lieu de faire tout bêtement un programme ou quelque chose, voilà, comme un peu un robot, j'aime bien en fait comprendre moi les choses et aller chercher un petit peu les infos, des infos physio, des infos par rapport de récup par exemple, qu'est-ce qui fait de mieux. Enfin, je trouve que c'est important, les gens intègrent mieux ce qu'ils font quand ils les comprennent et quand on leur explique pourquoi, que plutôt de leur dire fais ci, fais ça et puis voilà quoi, tu vas voir, ça va marcher. Les petites infos comme ça d'optimisation de la perte, des petites infos que je récupère à droite à gauche, c'est mes recherches à moi. Et c'est en discutant aussi avec les gens qu'on s'ouvre un petit peu et qu'on essaye de choper les infos un peu à droite à gauche.
Oui, et puis c'est toujours plus intéressant un athlète qui comprend ce que ses entraîneurs lui disent de faire plutôt qu'un athlète qui obéit juste aux consignes et qui fait les scènes.
Exactement, je trouve qu'on en a encore trop d'athlètes, mais après, c'est pas de leur faute. Quand on est jeune, voilà, on n'a pas forcément le recul nécessaire ni la réflexion de se dire, tiens, pourquoi on fait ça? Là, je sens que ça va bien, pourquoi ça va bien? Là, je sens que je suis fatiguée, mais est-ce que c'est normal? Si on te dit oui, c'est normal parce qu'il y a telle adaptation physiologique qui se passe, et bah, tu l'intègres beaucoup plus. J'ai vraiment compris ça en 2016 quand il y a un kiné qui m'avait soigné à l'INSEP, qui s'appelait Nicolas. J'avais une tendinite, première fois que je me blesse. Alors pour moi, c'était la fin du monde, tendinite à l'avant-bras. Et il m'avait expliqué exactement ce que c'était une tendinite, comment ça marchait au niveau des fibres, au niveau des ligaments, des tendons, des muscles, tout ça. Et il m'a expliqué exactement ce qu'il allait faire. Donc ce sont. Tout le processus, on va dire, pour guérir de cette tendinite. Lui, en tant que professionnel de santé, en tant que kiné, lui, c'était important d'expliquer aux patients exactement qu'est-ce qui se passait en détail parce qu'il pensait que la guérison n'en serait que soit plus rapide, soit plus efficace. Et ça m'a fait le titre, et on n'a pas eu l'entraînement juste derrière. C'est vrai que si l'entraînement est compris par les athlètes, bah je pense qu'il y a une meilleure assimilation de l'entraînement et une efficience beaucoup plus importante.
Et justement, à propos de l'entraînement, comment ça se passe pour toi en tant que rameuse de haut niveau, au niveau de ton entraînement, de tes semaines, que ce soit en intensité et en volume, qu'est-ce que tu fais?
Nous, nos semaines sont plutôt, comment dire, les mêmes en fait. Notre programme, il est sensiblement le même avec des séances clés. Sur une semaine, on va dire classique, donc pas une semaine de repos, ni post-compétition, ni pré-compétition, où là, on a des semaines un peu plus spécifiques et beaucoup plus allégées. Sur une semaine classique, on va s'entraîner entre 18 et 20 heures. Une fois qu'on est en stage, là, à ce moment-là, on va s'entraîner beaucoup plus, mais sur une semaine, on va dire à la maison, on est entre 18 et 20 heures. Tous les matins, on est sur l'eau. Il y a au moins une séance de bateau sur l'eau. Et après, l'après-midi, ça va être soit séance de musculation, donc ce qu'on appelle les C2, soit si on a B2 le matin, l'après-midi, ça peut être une séance voilà, aérobie, soit au sol, donc sur l'ergo, ou ça peut être du wetback, ou ça peut être encore une course à pied. Enfin, l'après-midi, moi, j'essaye de varier. Je ne suis pas une grande fan de ramer deux fois dans la journée. Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'aviron prend déjà énormément de jus, enfin, de fatigue. C'est nerveusement très fatigant. Il faut être vraiment concentré. C'est pas juste l'effort physique est largement insupportable de faire deux, voire trois sorties dans la journée. C'est juste qu'au niveau de la concentration, c'est beaucoup plus facile, en tout cas, de se concentrer le matin en une fois, même s'il faut faire une grosse séance bateau et faire 25 bornes, peu importe. J'ai jamais été une grande adepte de ramer deux fois dans la journée. Donc c'est bateau tous les matins et soit muscu, soit vélo, soit voilà, soit une séance aérobie l'après-midi pour éponger, pour faire du volume.
L'entraînement croisé, ça prend une place quand même importante au final.
Ouais, et puis ça permet, enfin, en plus le vélo touche uniquement les membres inférieurs qui sont les jambes, qui sont pour nous le muscle moteur et donc hyper important. Donc et ça nous permet quand même de faire du volume, d'en faire beaucoup sans non plus nous achever, on va dire. Et ça permet aussi de varier les sollicitations. Par exemple, pour certaines personnes, on va être beaucoup plus sensible au niveau du haut du corps, de toute la charge et la tension qui est accumulée au niveau, par exemple, thoracique, au niveau des côtes. Pour certaines, sont assez sensibles, donc c'est important de varier les contraintes et de faire d'autres sports. Et aussi, juste d'un point de vue mental, c'est aussi, enfin, moi, je le ressens comme ça, et ça, c'est hyper important. C'est pour moi nécessaire, en fait, de varier les disciplines pour pas qu'il y ait de surcharge mentale et d'avoir toujours l'impression de faire toujours la même chose. Si vous mettez quelqu'un tout le temps en bateau et le faire juste varier entre le bateau et la muscu, par exemple, il y a un moment, il va plus pouvoir toucher des pelles, quoi. Ça va être le tout plein. Alors que si on varie les disciplines, je trouve que ce sera hyper intéressant d'un point de vue physio, d'un point de vue aussi musculaire, parce qu'on va travailler d'autres choses, et aussi d'un point de vue mental, de permettre de diversifier l'entraînement.
Ouais, ça permet de s'évader un peu du sport qu'est l'aviron parce que ouais, ramer toujours en plus quand on rame, c'est souvent sur le même bassin, on voit toujours les mêmes choses et faire du vélo ou autre. Ouais, voilà, ça reste quand même assez monotone.
Ouais, c'est monotone. C'est un peu notre problème de notre discipline, c'est que c'est un magnifique sport, mais qui reste quand même monotone si on ne diversifie pas un petit peu en faisant d'autres activités. Donc, ça peut être du footing. Hein. La muscu aussi est une autre activité, donc tout ce qui est footing, muscu, vélo, ça permet de diversifier et ouais, de ne pas tomber dans une routine où on fait toujours, on fait que ça, parce qu'à un moment, je pense qu'on ne progresse plus du tout.
Et justement, par rapport à cette progression, malgré toutes tes années à haut niveau, est-ce que tu as toujours vraiment des axes de progression? Est-ce que ces axes changent ou est-ce que tu restes sur l'entraînement de base, enfin sur les bases pour t'améliorer encore plus?
Alors là, on touche le point sensible depuis maintenant quelques années. Mon problème actuel, on va dire, je sens, bah, quand on parlait de monotonie, quand on parlait de faire tout le temps la même chose, à un moment, on ne progresse plus. Et bah, j'ai l'impression d'être exactement dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que mes exigences montent au fur et à mesure des années, ma rigueur également. Et le problème, c'est que le programme d'entraînement que je fais depuis, ça va faire maintenant plus de 10 ans. 10 ans, 12 ans que je fais le même programme d'entraînement, je sens que il a eu ses bienfaits, il a ses bienfaits avec certaines personnes. C'est un programme qui permet de tenir vraiment sur la durée. Si on parle de d'autres programmes d'entraînement où on fait que taper dans le lactique, par exemple, c'est des programmes où on ne tient pas en général très longtemps. Donc tenir 10 ans, c'est pas possible. Donc ce programme-là permet de tenir vraiment des athlètes en forme et performants pendant de nombreuses années, mais sauf qu'à un moment donné, moi, je sens que je progresse plus, en fait, tout simplement parce que mon corps, à l'avoir le solliciter à faire exactement le même programme pendant 10 ans, il s'est tellement habitué, en fait, il n'a plus de nouveaux stress, en fait, de nouveaux stress d'adaptation, il s'est tellement habitué que maintenant, je ressens de moins en moins, je pense que je suis arrivée sur un plateau, je ressens de moins en moins les effets de l'entraînement, c'est-à-dire, enfin, ou en tout cas, je sens de moins en moins la courbe de progression que je pouvais avoir avant et maintenant, par exemple.
D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu penses du coup qu'un changement de programme d'entraînement ou même enfin de staff, on va dire, vu que souvent le programme d'entraînement est rattaché à un certain staff, pourrait débloquer cette stagnation un peu de tes performances?
Je sais pas, je pourrais pas répondre à cette question. Je maîtrise pas les pensées du staff, des entraîneurs, des nouveaux arrivants. Je sais pas du tout. Je suis plutôt quelqu'un qui, au lieu d'attendre qu'on me propose quelque chose, j'ai identifié un problème, j'identifie une sensation. Au lieu d'attendre quelque chose de quelqu'un, d'un groupe, mais je sais pas si ce sera mis en place, s'ils voudront pas, ce qu'ils vont proposer, je pars du principe que des fois, il faut prendre les choses en main et s'il faut changer des choses l'année prochaine, c'est moi qui les ferai avec, entre guillemets, les personnes avec qui j'ai envie de le faire. C'est comme ça que ça se passe aussi un peu dans la vie. Des fois, s'il faut les choses, il faut savoir les saisir et ne pas attendre qu'on nous propose ça, ça, ça. Et être attentiste, c'est pas bon. Donc, si j'ai envie de quelque chose l'année prochaine et si j'ai envie de changer et de progresser, je pense que je sais à qui m'adresser et je le ferai par ma propre initiative. J'attendrai rien de personne.
Ouais, parce que ton programme d'entraînement actuellement, tu sais que en tout cas, il marche, enfin, il te fait pas régresser.
En tout cas, régresser, non, non.
On va dire ce qui est important, c'est pas de rester au même niveau, c'est d'essayer de toujours un peu, on va dire, augmenter son niveau. Et si on fait rien, bah ça rien va changer. Et si on fait quelque chose, peut-être que ça va fonctionner, peut-être tu vas t'améliorer, peut-être que ça va pas fonctionner, mais si on tente rien, de toute façon, rien ne changera, quoi. Et ça, c'est le problème de beaucoup de choses.
C'est exactement ça. Et en fait, j'ai vraiment pas peur de l'échec. J'ai pas peur d'échouer à la fin ou de faire quelque chose de mauvais, mais au moins j'aurais essayé. Au moins, je pouvais me regarder dans une glace et dire, OK, au moins j'ai essayé, bah ça marche pas, et bah c'est pas grave, tant pis. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui ne tentent rien, qui se disent, oh bon, on sait pas si ça a marché, ça n'a pas été prouvé. Mais non, mais essayez, vous savez pas. Je préfère échouer et arrêter ma carrière là-dessus et me dire, bah voilà, au moins. J'ai pris l'initiative, au moins j'ai tenté un truc, bah voilà, si ça n'a pas marché, bah c'est pas grave. Mais au moins que plutôt de rester dans quelque chose où je sais que ça va plus ou moins marcher, j'assure un peu, mais je vais rien gagner de grand-chose à la fin, quoi. Pour moi, c'est la pire des choses, c'est de sentir qu'on stagne, en fait. C'est hyper gratifiant de savoir qu'au fur et à mesure des années, des entraînements, on progresse. Même si on est la dernière du championnat, peu importe, en fait, c'est son niveau à soi. Si on est la dernière du championnat, mais qu'on voit que tous les ans on progresse, déjà c'est gratifiant. C'est-à-dire que l'entraînement qu'on fait marche et puis ça vous rebooste non seulement à vous dépasser, mais à en faire plus. Au moment où, quand tu t'entraînes comme une acharnée, mais que tu vois qu'il n'y a pas le retour sur investissement, là je ne parle même pas d'un résultat brut en compétition, là je parle vraiment d'une sensation vraiment purement individuelle. Déjà, rien que ça, c'est pas gratifiant, quoi. Et c'est frustrant. C'est frustrant de se dire, je pense que je peux faire plus, mais là, je suis arrivée à bout avec ce programme-là, avec ce que je fais en ce moment, qui n'est pas forcément, je dis pas, hein, qui n'est pas forcément bien ou mauvais, hein. Moi, à mon niveau là, sur les X années que j'ai fait avec, je pense qu'à un moment, je suis arrivée à bout, quoi, à bout tout simplement.
Ouais, mais souvent la phase difficile, c'est plus au niveau ça après c'est mon avis, hein, au niveau du staff qui prendrait ce risque justement. Si ça marche pas, bah ça serait eux les coupables entre guillemets, enfin les je sais pas comment le dire, mais
Oui, non, mais c'est sûr, il y a un peu de ça. Puis derrière, forcément, enfin, les gens veulent pas perdre leur poste. Du coup, bah, on veut pas. Je comprends, on veut pas aussi prendre des risques, sachant qu'on l'a jamais essayé, on le sait pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si les athlètes, si on passe un contrat avec les athlètes et que les athlètes sont prêts à prendre, par exemple, ce risque, et bah, je dis, mais moi, j'endosse la responsabilité, mais à 1000%. Je veux dire, l'année prochaine, si j'essaye quelque chose d'autre, même si j'aurais demandé conseil à X ou X personnes, mais la responsabilité, moi, je suis pas comme ça. La responsabilité, c'est moi qui l'endosse, parce que c'est moi qui aurais voulu changer, c'est moi qui aurais voulu faire ça. Mais j'en veux pas aux gens, en fait, d'essayer et de se tromper. Ça arrive, en fait.
C'est comme ça qu'on apprend, comme on
Mais
dit.
exactement, exactement. Le vaccin, il s'est fait comment? Il s'est fait parce qu'on a tenté des milliers de fois, on a échoué des milliers de fois jusqu'à trouver la bonne combinaison. Mais si on n'avait pas échoué les dizaines de milliers de fois avant, on n'aurait jamais trouvé le vaccin, par exemple. Et j'en parle, et c'est le cas pour plein de sportifs. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est de pas essayer, en fait. Je préfère quelqu'un, voilà, qui échoue, qui a essayé des trucs et qui a échoué, que plutôt quelqu'un qui préfère rester dans une position, on va dire, confortable, et de se dire, bon, bah, ça, c'est sûr, en tout cas, ça nous fera pas aller moins vite, quoi. Et, bah, après, c'est ma vision des choses. Après, je suis comme ça, et c'est pour ça que, voilà, je pense que l'année prochaine, enfin, voilà, je vais me créer, si on peut dire, mes propres projets, un petit peu. Je sais pas si on peut dire ça, mais, ou mes propres opportunités.
C'est sûr que c'est pas forcément en année olympique que tu tentes des nouveaux trucs, que t'es pas sûr que ça va marcher.
Non, non, bien sûr, je suis pas. Non, non, bien sûr, ça, je sais que l'année olympique, même les 2 ans avant, enfin, ça sert à rien de changer. C'est pour ça qu'une année post-olympique, c'est le moment idéal pour changer quelque chose d'autre. Et je voulais déjà le mettre en place cette année, mais avec le report des Jeux, j'avoue que ça m'a pas avantagé, quoi. Ça m'a pas, j'ai pas pris la nouvelle super bien, quoi. Mais bon, voilà, il faut faire les choses. On a dû faire avec, et puis voilà.
Ouais, on n'avait pas trop le choix. Et justement, en parlant de ton staff, est-ce que tu pourrais nous dire un peu de qui il est composé, enfin de qui s'occupe de toi, que ce soit au niveau de la nutrition, de l'entraînement, etc.
Alors, mon entraîneur je vais faire entre guillemets, de la hiérarchie plus haut, on va dire, c'est en équipe de France, c'est Christine Gosset, qui s'occupe de nous avec Elodie en double. Ensuite, nous sommes toutes les deux aussi au pôle INSEP. Donc, comme entraîneur, on a également Christine Gosset et aussi Camille Rib qui sont sur la structure. Au niveau du club, on est très bien accompagné par Frédéric Rousseau au club de l'Ankou. D'un point de vue nutritionnel, on a aussi Eve Tellier qui est aussi à l'INSEP, qui nous suit. Alors, je dirais pas de manière régulière, mais qui, dès qu'on a besoin d'elle, répond présent. Ça peut être pour des questions. Dernièrement, c'était pour des questions d'hydratation, c'est-à-dire comment, par exemple, comment, quand on a des pertes hydriques, comment faire en sorte de, ou par quel biais ou par quel produit, on va dire, on pourrait limiter les pertes hydriques, donc c'est-à-dire en minéraux, par exemple lors des jeux. On est aussi très suivi par un médecin, Sébastien Le Garret, qui est un excellent médecin, qui, pareil, qui répond présent. Il est toujours disponible pour nous. Et ça, c'est le gros avantage de l'INSEP, c'est qu'on a un panel de professionnels à notre disposition, si je peux dire, tant sur le médecin, sur les kinés avec Laurence, la nutrition. Il peut y avoir aussi des préparateurs. On travaille aussi avec Elodie, avec un préparateur mental qui nous suit maintenant depuis 2018. Donc, il nous suit de manière individuelle, mais également à deux. Donc, on a au fur et à mesure des années vraiment essayé d'avoir un panel vraiment élargi de professionnels qui nous suit, un préparateur physique également avec Sabine Juras, où on essaye vraiment de combler tous les facteurs de la performance, ou en tout cas d'être le plus optimum sur tous les facteurs de la performance. Ce que je disais, bah, il y a le côté, voilà, il y a l'aviron, mais aussi tous les petits à côté, la nutrition, le médical, la préparation physique, c'est des facteurs qui sont hyper importants, qui sont complémentaires à l'aviron. Alors, qui nous fera peut-être pas gagner 10, 20 secondes en course, mais qui peut en tout cas nous faire perdre beaucoup de secondes si c'est pas maîtrisé, par exemple. Donc, c'est l'avantage vraiment de l'INSEP où c'est une structure vraiment optimum pour ça, où on a, on va dire, tous les professionnels dont on a besoin. Qui sont disponibles et vraiment accessibles pour nous permettre d'être le plus performant possible.
D'avoir autant de monde, surtout autant de monde qualifié autour de toi pour t'accompagner dans ta recherche de performance. Et en quittant un peu justement le domaine de la performance, au niveau de la recherche de sponsors, etc., comment ça se passe pour toi, surtout que déjà l'aviron, c'est pas le sport le plus connu. Sport féminin, c'est moins mis en avant que les hommes. Pour toi, ça se passe comment pour trouver des sponsors?
On n'en trouve pas. On n'en trouve pas parce que on n'est pas non plus dans cette démarche-là. Donc moi j'ai la chance d'avoir un contrat de travail. La Maïf me permet m'en détacher de mes contraintes professionnelles les 2 années avant les Jeux pour que je puisse pleinement m'entraîner et être voilà pleinement performante et disponible à ma pratique. Donc je suis financièrement autonome. Donc c'est vrai que je suis pas forcément à la recherche de sponsors. Le seul sponsor que j'ai cherché là récemment et que j'ai eu, c'était parce d'un besoin, un besoin matériel d'un véhicule. Et j'ai réussi à avoir un partenariat avec une marque automobile. Mais voilà, sinon, c'est le seul partenariat, on va dire, que j'ai, le seul sponsor que je puisse avoir avec la Maïf d'un point de vue individuel. Mais c'est sûr que pour nous, c'est compliqué d'avoir des sponsors, tant parce qu'on n'est pas un sport, ça va être très médiatique. Et qu'en général, les entreprises veulent un retour sur image, sur investissement, et que l'aviron, malheureusement, peine un peu à se faire une place parmi nombreux sports. Donc, c'est la recherche de sponsors, c'est sûr, est pas évident dans notre discipline.
Ouais, c'est sûr que surtout en France où l'aviron est quand même très peu médiatisé. Et justement, t'as parlé des 2 années avant les JO, donc t'as participé aux JO
À Rio, ouais.
à Rio. On sait que c'est le Graal un peu de tout sportif. Ton objectif à Rio, j'imagine que c'était de te hisser en finale, donc en finale A, donc pour les 6 meilleurs bateaux. Les 6 meilleurs bateaux, et du coup, qu'est-ce que ça serait ton objectif cette année à Tokyo avec Elodie?
Bah là, c'est par logique, c'est l'étape supérieure. On est entré en finale à Rio, c'était notre objectif. Là, maintenant, à Tokyo, c'est de passer l'étape de monter sur le podium. La finale, on l'a déjà fait à Rio. C'était une super expérience, un super résultat. On était. Pour un bateau qui s'était construit juste l'année d'avant, on était mais juste aux anges, vraiment. On a fait une très grosse compétition. Là, cette année, l'objectif, clairement, c'est d'être médaillé. Même une finale ne nous satisferait pas. On a besoin, voilà, on passe l'étape supérieure. Là, on a bossé le soir de la finale à Rio. On pensait déjà à Tokyo, à ce qu'on allait mettre en place. Hein, voilà, c'était un objectif de 4 ans, mais maintenant qu'il en est devenu 5 avec le report des Jeux. Et ouais, clairement, clairement, c'est de revenir avec la médaille.
Ouais, un sacré objectif, mais avec le travail des 5 dernières années, ça peut que payer, quoi. Sachant que juste avec 1 an de préparation à vous deux, donc en double, vous avez pu réussir à vous hisser en finale à Rio.
C'est ça, exactement. Après, je sais que les années se suivent et ne se ressemblent pas. Il faut savoir tout remettre à zéro. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à Rio, voilà, c'était à Rio, c'était à 5 ans. Être finaliste à Rio ne te donne en aucun cas la possibilité ou dans la logique d'être aussi finaliste à Tokyo. Non, 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 c'est vraiment tout est mis à zéro. Il y a de nouveaux bateaux, de nouvelles adversaires. Les choses peuvent vite changer dans un sens comme dans l'autre. Ce qu'on a fait à Rio, c'est super, mais maintenant, il faut se dire que voilà, là, c'est tout le monde repart à zéro. La compétition, c'est la compétition. Et que là, voilà, tout le monde va avoir à cœur de enfin courir les Jeux. Déjà, parce que je pense qu'il y en a beaucoup de sportifs, moi aussi, qui à un moment où je me suis dit, putain, c'est pas possible, les Jeux vont pas avoir lieu. Donc, tout le monde, je pense, va avoir à cœur de se faire plaisir et de faire le meilleur résultat possible.
Ouais, c'est la grosse étape qui arrive pour une belle médaille, on l'espère. Et du coup, là, j'imagine que tu vas être focus à 100% là-dessus, mais est-ce que tu as déjà des projets pour après Tokyo, la suite de ta carrière, etc.?
Moi, j'aimerais bien continuer jusqu'à Paris. Pour moi, l'après-carrière, c'est pas tout de suite encore. Si j'en ai l'envie, la motivation et la forme également, moi, j'aimerais bien aller et terminé ma carrière à Paris en 2024 sur le bassin de Vers-sur-Marne où j'ai fait mes débuts parce qu'on est chez moi là-bas. L'après-carrière, je commencerai à vraiment y réfléchir et à m'organiser, on va dire, après Paris 2024. Mais là, dans l'immédiat, après Tokyo, je pense que je vais prendre des vacances parce que j'ai besoin de vacances, là, clairement. C'est, je pense, une des premières fois où j'ai senti que là, c'est comme si vous aviez fourni une énorme charge d'entraînement, que vous étiez au boulot toute l'année et que là, vous attendiez les vacances, vous serrez les dents, mais vous attendez les vacances. Donc là, je vais avoir besoin, je pense, après Tokyo, d'une bonne dose de vacances pour bien me ressourcer. Me reposer aussi physiquement, mentalement, et pour repartir vraiment à fond les ballons pour Paris.
Une bonne coupure pour redémarrer un nouveau cycle avec peut-être une nouvelle planification d'entraînement du coup.
Peut-être, qui sait, mais en tout cas, c'est le chemin que je prends fortement. Après, je vais voir, hein. Je planifie encore rien pour l'instant, c'est-à-dire que je vais voir aussi comment ça va évoluer au niveau fédéral. En tout cas, ce qui est sûr dans un premier temps, ouais, c'est bien se reposer, bien se ressourcer pour vraiment être en forme l'année prochaine. Je pense que c'est hyper important de savoir faire des coupures et des pauses, que je pense que j'aurais dû faire après Rio, mais que j'ai pas su faire, parce que c'est pas dans notre culture en fait en France de faire des breaks, un peu comme les Australiens ou les Néo-Z, qui eux s'en vont 2 ans après les Jeux et qui reviennent 2 ans juste avant les Jeux suivants. Mais moi, c'est ce que j'ai vraiment envie de faire l'année post-olympique, de faire autre chose, quoi. Si ce n'est pas de l'aviron, ce serait faire autre chose, mais justement pour casser la monotonie et faire et vraiment prendre du plaisir sur d'autres disciplines, peut-être. Qui sait?
Du coup, je pense qu'on arrive à la fin. Jérémy, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter.
Non, non, c'était vraiment super sympa comme échange et on te souhaite le meilleur, que ce soit pour Tokyo ou pour la suite de ta carrière.
Merci beaucoup, merci de m'avoir invité.
On te remercie.
À bientôt, au revoir.
Allez, salut. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous.